Radio Kapi. Oh, Kapi. Jocelyne Moussa Oponde pour le journal.
Braquage d'un shop Vodacom hier à Uvira, une scène digne d'un film western. Deux personnes sont mortes, dont un agent de cette société de communication et un bandit. Les USA opposés au vote électronique en RDC, son ambassadeur à l'ONU l'a dit hier au cours d'une réunion. Le ministre congolais des Affaires étrangères demande pour sa part à la communauté internationale de jeter un regard positif et constructif sur le processus électoral en RDC et de l'accompagner. Élection d'un nouveau président à la tête de l'Assemblée provinciale du Bazouélé, cela pourrait mettre un terme aux malentendus et entraîner la suspension des plénières de cette institution. Dossier à suivre dans ce journal. Bonjour à tous. Deux morts, dont un agent de Vodacom et un des malfrats, c'est le bilan d'un braquage hier soir au shop Vodacom de Moulongwe dans la cité d'Uvira au sud Kivu. D'après le commandant de la police district d'Uvira, deux autres personnes ont été blessées lors de l'attaque, dont un autre agent de Vodacom ainsi qu'un policier commis à la garde du shop. Le colonel Gilbert Serouchago affirme que des enquêtes sont ouvertes, mais quelques personnes sont déjà aux arrêts pour raison d'enquête. Fiston Goma.
Un véhicule de FBN Bank stationné devant les shops Vodacom avec à bord un policier et des agents de la banque. L'équipe venait récupérer un autre agent de la banque détaché au shop Vodacom pour la remise de la journée lorsque quatre hommes armés ont fait incursion sur les lieux. Ces derniers se sont précipités sur l'agent de la banque. Ils l'ont brutalisé avant de l'abattre à bout portant. La réaction du policier qui escortait le véhicule n'a pas tardé. Il a tiré et tué à son tour l'un des assaillants qui est mort sur le champ. Du coup, les trois autres malfrats se sont retirés en tirant en direction du policier qui a été blessé. D'après le commandant de la police, deux grenades, un revolver ainsi qu'une carte d'identité ont été retrouvées sur l'assaillant décédé. Ce bandit serait identifié comme un ressortissant burundais. Le colonel Gilbert Serouchago dit que des mesures sont mises en place pour lutter contre cette nouvelle pratique de criminalité en pleine journée et à l'aide des grenades et des revolvers à Uvira. D'Uvira, Fistongo Mamayaba, la Radio Kapi.
La prison à perpétuité, c'est la peine infligée hier par le tribunal militaire garnison de Kananga à un policier. Cette juridiction accuse le brigadier Kalala de meurtre d'une vendeuse le 8 février dernier au marché Chamba Ndiba. Le verdict était rendu à l'issue d'un procès en flagrance. La foule immense qui a assisté à cette audience a salué ses prononcés. Explication de Blaise Ndongala.
Le brigadier Kalala, la cinquantaine révolue, a écopé de peine de prison en perpétuité au terme du procès qu'il opposait au ministère public. C'est le meurtre de Mama Odia, communément appelée Mama Yao, poursuivi pour meurtre. Le prévenu est également renvoyé du rang de la police nationale et devra payer solidairement avec la République des dommages et intérêts à hauteur de 30 millions de francs congolais aux familles de la vendeuse décédée. Cette sentence a réjoui le collectif d'avocats de la partie civile, mais les avocats de la défense estiment que la peine prononcée contre leur client est sévère et se proposent d'aller d'ici 5 jours en appel pour obtenir sa commutation. Selon eux, l'infraction de meurtre retenue contre leur client ne tient pas du fait que le tribunal a reconnu que le prévenu n'avait nullement l'intention de tuer et n'avait non plus d'antécédent avec sa victime. Pour rappel, la femme touchée par balle et décédée le même jeudi a été inhumée dimanche dernier au cimetière du quartier hôpital de Kananga. Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Direction Salamabila, en territoire de Kabambare, province du Maniema, la population dénonce les conditions socio-économiques déplorables et les graves exactions dont elle est actuellement victime de la part des hommes armés. Et les forces vives de cette cité minière, siège de la multinationale Banro via Namoya Mining, l'ont exprimé hier lundi devant une délégation de la MONUSCO Bukavu venue à son écoute. Selon les différents leaders locaux rencontrés, plusieurs villages de Kabambare sont à ce jour vidés de leur population. Un reportage de Michel Chirimomi.
Parmi les témoignages reçus, la malnutrition des enfants à bas âge et les violences sexuelles des femmes sans prise en charge adéquate, tous ces chapelets de malheurs devenus le pain quotidien des habitants, sont consécutifs aux multiples attaques des groupes armés, mais aussi aux accrochages entre ces derniers et l'armée régulière. Témoignage du chef de secteur de Salamabila, Justin Hassan Kitoko.
À part le centre ici, Saramaville. C'est seulement là où les élèves vont à l'école. Quant aux autres villages environnants, en commençant par la direction vers Ouamaza, à partir de 7 km ici à Kopakopa, jusqu'à arriver à 60 km à Ouamaza, aucune école qui fonctionne. Quand vous arrivez au chef-lieu, Kayembe, vous prenez la route vers Kapambare, de Kayembe jusqu'à la rivière Louama, tous les villages, la population est en brousse.
Pour la MONUSCO, cette mission entre exactement dans les clauses de son mandat, celui de la protection de la population. Le chef de la section DD3R à Bukavu, Ganda Abdourahmane, qui a conduit la mission, se félicite de la descente sur terrain.
La MONUSCO a décidé d'envoyer cette mission avec le double objectif d'aller savoir sur le terrain ce qui se passe, avoir une opinion et ensuite créer les conditions du déploiement temporaire d'une présence militaire afin de mieux protéger les civils.
Bukavu, Michel Chimami, Radio Okapi.
Je l'ai dit, son titre, les États-Unis d'Amérique s'opposent au vote électronique en République démocratique du Congo. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, l'a dit hier lundi à New York. C'était lors d'une réunion informelle à l'ONU sur le processus électoral en RDC. Présent à cette rencontre, le président de la CENI a justifié le recours à la machine à voter par la réduction du poids des matériels à déployer sur l'ensemble du territoire national. L'ONG Human Rights Watch a de son côté évoqué la crainte des fraudes lors des élections en réclamant de la transparence. Plus de détails avec vous, Billy Van Loutouma.
Nous sommes très préoccupés de voir l'insistance de la Commission électorale nationale indépendante CENI à vouloir utiliser un système électronique de vote, a affirmé la diplomate citée par l'AFP. Selon Nikki Haley, un tel recours représente un risque colossal et les États-Unis souhaitent le recours à des bulletins papier pour qu'il n'y ait pas de doute sur les résultats. Participant à cette rencontre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a pour sa part précisé que l'option prise de recourir à la machine à voter permet de réduire le poids de l'ensemble des matériels à déployer des 16 000 tonnes à moins de 8 000 tonnes. Lors du débat, la Côte d'Ivoire a mis en garde contre le risque d'élections mal préparées, tandis que les Pays-Bas indiquaient respecter la décision de la CENI de recourir à un système électronique tout en lui demandant de tester rigoureusement le matériel avant les scrutins. On ne peut pas permettre un nouveau report des élections et le président Kabila ne peut pas briguer un nouveau mandat car la Constitution ne le permet pas, a souligné Nikki Haley. Elle a aussi évoqué des informations selon lesquelles le président sortant ne chercherait pas à imposer quelqu'un de son choix pour lui succéder. Peut-on lire dans cette dépêche de l'agence France Presse.
La République démocratique du Congo n'est pas l'enfer des droits de l'homme que l'on veut bien présenter à tort. Elle fait plutôt face, à l'instar de la majorité des grandes démocraties, à la difficulté d'équilibre entre le maintien de l'ordre et la sécurité publique et le respect de l'exercice des libertés individuelles. Ces propos sont ceux de Léonard Chokitundu, ministre congolais des Affaires étrangères et intégration régionale, hier lundi, lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur le processus électoral en RDC. Les grandes lignes de son discours avec Blaise Makassi.
Évoquant la décrispation politique, notamment dans son volet qui touche au droit de manifester, Chokitundu a rappelé que si la liberté de manifester est constitutionnellement garantie en RDC, son exercice doit être concilié avec l'impérieuse nécessité de maintien de l'ordre et de la sécurité publique, surtout quand des organisateurs des manifestations qui n'ont ni adresse de contact, ni personnalité juridique, ne veulent pas collaborer avec les autorités urbaines et instrumentalisent des lieux et des cultes à des fins politiques inavouées. Le ministre congolais des Affaires étrangères demande à la communauté internationale de dénoncer de la part de tous les acteurs toute initiative susceptible de faire déraper les processus électoraux. Il lui demande aussi de jeter un regard positif et constructif sur les processus électoraux et d'accompagner ces processus complexes. Aujourd'hui, où le processus électoral est suffisamment avancé, la meilleure attitude attendue de tous, selon Chokitundu, est une préparation avec sérénité, en évitant tout comportement ou initiative de nature à nuire à leur bonne organisation.
Pendant ce temps, en Ituri, des autorités ecclésiastiques et la société civile de Mahagi accusent le gouvernement d'entretenir la crise observée depuis une semaine en territoire de Djougou, à 72 km nord de Bounia. C'est en vue de trouver des raisons pour justifier, selon elle, la non-tenue des élections en RDC. Ces points de vue sont exprimés pendant que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur est arrivé à Bounia hier lundi. Isaac Moyopé.
La dernière déclaration qui accuse le gouvernement a été faite ce lundi dans une conférence de presse par les représentants légaux de la communauté Emmanuel en RDC. Pour lui, les drames des Djougou sont des scénarios entretenus par les acteurs politiques du pays. Il affirme que les autorités ne veulent pas de l'alternance au pays pour s'enrichir sur les dos d'une population déjà paupérisée et meurtrie. Le professeur Bungi Shabako Kato.
L'Ituri est en train d'être sacrifié sur l'autel de la politique congolaise. C'est ce que nous devons justement refuser. Dans ce contexte, les Ituriens ne doivent pas s'attendre à grand-chose de la part de ceux qui devraient nous protéger.
Le porte-parole de la société civile de Mahagi s'insurge contre les liens faits par les présidents de la CENI entre l'organisation des élections et les exactions des Djougou. Corneille Nanga a en effet dit à la presse il y a une semaine que cela pouvait impacter négativement sur l'organisation des scrutins. Pour Maître Mokili Mungunuti de la société civile, le gouvernement a l'intention de ne pas organiser les élections.
Nous sommes très inquiets par rapport à cette déclaration-là du président de la CENI qui veut marier ce conflit avec les élections qui doivent avoir lieu à la fin de l'année 2018. Le président de la CENI voudrait faire croire au peuple ivoirien que le gouvernement central et le gouvernement provincial ne peuvent pas arriver à mettre fin à ce conflit.
Le vice-premier ministre Emmanuel Chadari, qui est à Bounia depuis lundi dans l'après-midi, n'a pas encore répondu à ses préoccupations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et justement, suite aux dernières exactions de Djougou, l'Ituri enregistre déjà plus de 60 morts, plus de 2000 cas incendiés et plus de 200 000 personnes déplacées internes. Ces chiffres revus à la hausse sont livrés par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, dans cette province. Pour son responsable, la situation humanitaire est grave. Il invite le gouvernement à stabiliser la zone en vue de permettre le retour de ces déplacés dans leur village. Idrissa Konté est au micro de Jean-Claude Loki.
La situation humanitaire s'est beaucoup détériorée depuis la dernière mise à jour. À la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 personnes déjà enregistrées seulement dans le site. Mais ceux qui sont éparpillés dans des familles d'accueil dans la ville de Bounia, nous parlons de plus de 8 000 personnes seulement ici dans la ville. Donc si vous totalisez les deux, nous sommes dans les environ 20 000 personnes déjà déplacées seulement ici dans la ville de Bounia. Il y a des gens qui passent nuit en plein air, d'autres même devant l'entrée de l'hôpital. C'est une situation assez dramatique. Il y a des villages entiers qui sont partis dans la fumée. Ça, ce n'est que le rapport que nous recevons des partenaires qui se trouvent dans les endroits où il y a l'accès. Nous, en tant qu'humanitaires, on donne l'aide aux gens qui sont dans les besoins, mais les autorités ont leur part à jouer, pacifier les communautés et maintenir l'autorité de l'État pour permettre à ces déplacés de regagner les villages d'origine et recommencer leur vie.
Répression de la marche du 21 janvier 2018, les travaux d'enquête évoluent sans embâge au ministère des droits humains où se réunissent chaque jour les membres de la commission mise sur pied à cet effet. Jusqu'à hier lundi, 16 personnes ont été auditionnées par la commission. Georges Kafiamba, porte-parole de cette commission, encourage les familles des victimes de ne pas avoir peur de passer au ministère des droits humains pour déposer leur témoignage devant la commission. Pour lui, l'heure n'est pas encore aux analyses de récits qu'apportent les proches des victimes. Il est au micro d'Askenzik Biataero.
Pour la semaine passée, de lundi jusqu'à vendredi, nous avons traité 13 cas. Nous venons d'auditionner 3, ce qui nous permet d'avoir déjà 16 cas traités, ce qui fait que d'ici la fin de la semaine, le nombre pourra augmenter. Nous sommes encore à un stade où nous écoutons les gens. Nous enregistrons les récits. Il va arriver aussi un autre moment où la commission va procéder à des vérifications de manière à asseoir aussi sa conviction par rapport aux faits lui exposés par chacune des personnes qui aura comparu devant nous. Ceux qui pensent avoir des réserves puissent communiquer d'abord avec la commission. Il y a des numéros de téléphone qui ont été déjà communiqués, qui défilent encore sur plusieurs chaînes. Ils peuvent appeler pour soumettre leur cas et qui sera soumis à l'Assemblée générale de la commission pour traitement.
Autre nouvelle, les députés nationaux, le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito a déposé hier lundi un mémo auprès du Premier ministre Bruno Tshibala concernant la situation des vaches dans les provinces du Kwilu et de Kwango. Dans ces mémos, il recommande au Premier ministre d'instruire ses collaborateurs afin qu'ils prennent des mesures d'encadrement et d'apaisement pour la population. Pour Adolphe Mouzito, ceci permettrait de mettre un terme à la psychose qui règne au sein des communautés et éviter des conflits des terres dans cette partie du pays. On l'écoute au micro de Billy Van Lutumba.
Il y a une espèce de psychose dans la population qui refuse de manger tout ce qui est viande de vache. Il faut qu'on examine la santé. On a des administrations appropriées pour examiner la situation de santé de ces bêtes. Quelles autorités de l'exécutif descendent sur le terrain pour identifier ces gens? Quelles sont leurs identités proprement dites? Il faudrait qu'on puisse soumettre ces commerces aux lois du pays de manière à ce que s'il y a des taxes à payer, qu'on puisse les taxer. Moi, je suis plutôt pour une option qui consiste à suspendre ces commerces et l'installation de ces bouviers, de ces animaux dans ces régions-là, le temps que la situation se calme, le temps que le gouvernement prenne des dispositions, accompagne le processus, apaise la population. Moi, je suis député, je n'ai fait que proposer. Je pense au gouvernement de prendre des dispositions. Moi, je pense que c'est urgent. Et moi, j'ai peur que ça débouche sur un conflit interethnique parce que déjà la population elle-même disait que si le gouvernement traînait, elle va se prendre en charge.
Actualité Afrique Monde.
D'abord en Afrique du Sud, la situation politique est toujours tendue devant le refus de Jacob Zuma de présenter sa démission. L'ANC, son parti, lui a accordé 48 heures pour se retirer. Hier soir, la principale instance de décision de l'ANC a renouvelé son exigence, rappelant le chef de l'État de quitter son poste pour essayer de dénouer la crise. Le président sud-africain tente de jouer les prolongations. Il exige de rester au pouvoir encore 3 mois, selon les médias locaux. Mais le parti est catégorique. En cas de refus, une motion de censure sera déposée au Parlement. Si elle est votée à la majorité absolue, cela ne lui laisserait pas d'autre choix que de partir. Au Nigeria, un des djihadistes du groupe nigérian Boko Haram a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à l'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes lycéens à Chibok, dans le nord-est du pays. Haruna Yahaya, 35 ans, est handicapé, a précisé le porte-parole du ministère de la Justice, avec un bras paralysé et une jambe déformée, et a plaidé coupable, mais a demandé la clémence des jurés pour avoir été forcé à intégrer le groupe djihadiste et a agi à cause de leur sévérité, et selon son avocat. L'organisation Human Rights Watch a présenté hier lundi à Nouakchott son rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie, le premier qu'elle écrit depuis 20 ans sur ce pays. Dans ce rapport de 79 pages intitulé « Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges, répression à l'encontre des défenseurs de droits humains en Mauritanie », l'organisation pointe les difficultés des militants qui traitent des questions sociales sensibles telles que l'esclavage, la discrimination entre communautés ou le passif humanitaire.